Vous écoutez
RMC.
Messieurs, on parlait de cette Coupe du Monde qui appartient aux stars. Les stars qui brillent, on le rappelle, hein, elles ont quasiment toutes marqué. Vinicius a marqué pour le Brésil, Mbappé par deux fois, Kane deux fois, Bellingham. Il y a eu également les buts de Haaland, de Messi. Le seul pour l'instant qui n'a pas trouvé le chemin défilé, c'est évidemment Cristiano Ronaldo lors du premier match et Lamine Yamal, mais qui est rentré en fin de match et qui n'était pas à 100%. Fabrice, est-ce que pour toi, effectivement, finalement, c'est un retour des stars qui portent leurs équipes, parce que parfois, c'est arrivé dans certains mondiaux qu'elles mettaient du temps un peu à rentrer dans la compétition, parce que le but, c'est d'aller le plus loin possible et qu'il y ait une montée en puissance. Là, il y en a beaucoup, elles sont déjà prêtes.
Ouais, totalement. Moi je suis d'accord. Après, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est nouveau, parce qu'en 2022, c'était déjà plus ou moins la même chose avec l'équipe d'Argentine qui était portée par Lionel Messi et la France avec Kylian Mbappé. En 2018, il y avait quand même des vedettes, même si c'est un collectif, c'est plus un collectif qui a gagné. Mais sur les, on va dire 4-5 dernières années, globalement sur les grandes compétitions.
2018, on a un peu plus, je trouve, France, Croatie, Argentine dans des équipes entre guillemets plus collectives et moins stars, même s'il y a l'émergence de.
Moi, je parlais vraiment d'une personnalité qui porte l'équipe. Ouais. Mais si on parle que de stars dans des collectifs, dans ces cas-là, oui. À part la période, si on remonte sur les peut-être les 15-20 dernières années, à part la période de l'Espagne 2008. 2012, où là c'était vraiment un gros collectif avec les joueurs du Real Madrid, du FC Barcelone. J'ai quand même l'impression que sur les grandes nations et sur les grands tournois, il y a souvent une, deux, trois individualités dans une équipe qui font la différence avec une grosse défense. Et ça, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose réellement de nouveau. On a l'habitude de dire que une grande compétition se gagne avec une grosse défense et un tueur devant. Je pense que ça se vérifie quasiment à
oui,
chaque fois.
Oui, c'est sûr. Et puis pour aller dans le sens de ce que tu dis, Fabrice, c'est que moi hier, je vais être honnête, j'ai pas vu jouer Lionel Messi aux États-Unis. Je suis pas la MLS, je suis les autres sports.
Je sais pas où il était encore parti là, celui-là. On passe suivre Lionel Messi, mais bon, je veux pas savoir ce que tu faisais, mais bon, bref.
Il parle de MLS, c'est pas du match.
Je parle de la MLS.
Ah bon, d'accord. Je croyais que
non, on a fait le match en direct sur RMC. Il était là.
Ah, tu bossais.
Il a bu du filet devant la prestation de Messi.
Mais t'es pas sorti depuis que t'es là.
Ah non, pas.
Fake news.
À part pour boire un verre, mais
t'es sorti avec moi d'ailleurs.
Oui, bah voilà, pour boire un verre, mais on a regardé le match. Non, je te parlais en MLS. J'ai pas suivi l'Inter Miami. Moi, j'ai pas regardé là depuis 12 mois. J'ai vu qu'il avait gagné le championnat, bien sûr, mais on ne suit pas. Donc moi honnêtement, je m'attendais à voir un joueur cramé. Je vais être honnête, je m'attendais à voir jouer un Cristiano Ronaldo.
J'imaginais pas qu'il puisse mettre un triplé comme ça.
Non mais c'était même plus le triplé là, Fabrice. C'était à chaque prise de balle, c'était Messi prime. C'était pas, je n'exagère pas. Moi j'avais l'impression, j'étais là avec Walid, j'avais l'impression que c'était Messi prime. Il a mis des accels à tous les Algériens. Pourtant les Algériens, il y en a, ils sont vifs quand même. Mais tous, c'est les plus maigres, les plus grands, les plus costauds, il leur a mis des accels incroyables. Alors on me dit, Walid me disait, ouais, mais c'est peut-être l'Algérie qui est en dessous. Peut-être l'Algérie était en dessous, mais lui il était au-dessus, c'est clair. Et donc, quand tu vois ça, tu te dis, mais waouh, mais c'est quoi ce truc? Et donc, ces stars-là, allez, je ne mets pas Cristiano Ronaldo dedans, parce que quand même, là, t'es à 42 ans, quoi. 42 ans, il a un an de moins que moi, quand même, Cristiano Ronaldo.
Bon, surtout 3 ans de plus que Messi. Excuse-moi de faire la comparaison dans ce sens-là.
Non, mais je veux dire, bon. Je veux dire,
il a 41 ans, messieurs, il les aura. En février, les 42.
Oui, bon, d'accord.
41 ans et demi.
41 ans et demi.
C'est un 85.
Okay. 85. Mais aujourd'hui, en fait, il faut juste profiter. C'est pour ça que je voulais. Tu te rappelles, on avait ce débat. Moi, je veux voir Neymar à la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, c'est mes idoles. Je vais pas dire de jeunesse, mais en tout cas d'adolescence, d'adolescence,
de jeune adulte,
comme exactement, merci. C'est mes idoles de jeune adulte, et je sais qu'en fait, je les verrai plus jamais jouer. Je n'aurai pas le même rapport affectif avec les nouvelles générations. Moi, j'ai grandi avec ces mecs-là. Moi, c'est, puis en plus, voilà, ça fait partie des meilleurs de l'histoire. Mais voir Messi encore, alors qu'il a toujours été dans cette dualité en tant que franco-portugais avec Ronaldo, où on défendait la carrière de Ronaldo parce qu'on aimait le défendre, mais on savait que Messi c'était très très fort en face, voire le meilleur de l'histoire, mais voilà. Mais là, il est en train de clore tous les débats, revoir Neymar, voir même Bellingham tout à l'heure. Enfin, je veux dire, la Coupe du Monde, c'est quand même, c'est fou, quoi.
Mais je te suis, Kevin, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu voulais absolument voir Neymar, alors que bon, a priori, il va pas passer beaucoup de temps sur le terrain. Et pour Cristiano Ronaldo, tu veux pas le voir?
Bah écoute, c'est une très bonne question. C'est parce que je pense que je sais ce que Cristiano Ronaldo fait au Portugal. Et encore une fois, il donne son maximum. Il est au max, il est pas là en train de marcher. Enfin, il marche, mais il a toujours fait. Mais voilà, j'ai aucun problème avec l'attitude de Cristiano Ronaldo. J'ai un problème avec l'attitude de l'entraîneur vis-à-vis de Cristiano Ronaldo et des coéquipiers qui, du coup, sont toujours en train de le chercher, sont toujours en train d'essayer
mais,
de le faire marcher.
Mais tu sais que Neymar, ça va être pareil, hein, s'il est sur
oui,
le terrain.
Oui, mais je pense que le Portugal est meilleur sans Ronaldo. Je ne suis pas sûr que le Brésil soit meilleur sans Neymar. Même un Neymar à 70%.
Moi, je pense à l'inverse que Ancelotti serait pas forcément fâché si la blessure de Neymar venait à se prolonger. Mais bon.
Non, mais
je pense
après, oui, mais vous avez entendu quand même les garçons. Non,
après, attends, juste pour répondre à ça sur le débat global sur les stars, et pour dire pourquoi certaines on y croit moins que d'autres, je pense qu'il y a tout simplement, entre guillemets, un peu une date, un âge de péremption.
Exactement.
C'est pas tout à fait pareil. Oui, Neymar,
Neymar, il s'est beaucoup blessé.
Non, mais je suis d'accord. Mais il est jeune encore.
Oui, mais c'est plus la même dextérité. Mais tu l'as vu jouer récemment?
J'ai adoré
Neymar. C'est l'un de mes joueurs. C'est l'un des joueurs qui m'a
bien
fait.
Bien sûr, nous tous.
Voilà. Mais quand tu le vois jouer aujourd'hui, malheureusement, c'est plus le même passement de jambes, c'est plus le même double contact.
T'as vu Paqueta?
Mais je suis d'accord avec toi. Mais Paqueta, il peut faire 90 minutes. Neymar, je suis pas sûr qu'il puisse faire 20 minutes.
Mais c'est pas grave. C'est 20 minutes de haute volée. Moi, Ronaldo, s'il fait remplaçant au Portugal. Mais moi, ça me va. Tu fais remplaçant, t'es 20 minutes, 41 piges, tu rentres en fin de match, bah s'il y a une tête à mettre, un coup de pied arrêté, tu vas être là. Mais tu ne peux pas être titulaire indiscutable dans cette équipe, alors que t'as des mecs qui vont à 2000, qui peuvent faire sans toi.
Mais la question c'est s'il est à 100% Neymar, est-ce que Ancelotti peut le mettre sur le banc?
Ah oui, moi je pense que oui.
Bah, mais façon, par rapport, messieurs, à Neymar,
c'est très difficile pour lui aujourd'hui d'être à 100%.
Vous en parlez. 70. Vous avez quand même aussi entendu que après le match, il y a des joueurs qui ont parlé de l'importance que Neymar avait eu lors du premier match.
Sur le banc.
Il était pas là. Oui, mais quand même, il y a quand même
Vinicius.
Eh ben oui, mais il y a Vinicius qui te dit, il m'a dit quoi faire pendant la pause fraîcheur.
Il faut se rendre compte qu'ils sont fans de lui aussi. C'est voilà. Ça, la réalité.
Je veux dire, c'est quand même, c'est là la grande différence. Oui, mais c'est comme la grande différence avec le Portugal où il y en a certains qui sont un peu étouffé finalement par Cristiano Ronaldo, alors que là, Neymar, il peut très bien ne rien dire. Et enfin, Vinicius peut très bien ne rien dire. Vinicius, il marque et il rend hommage d'une certaine
Ronaldo
façon.
Aussi, tu te rappelles, Ronaldo, il était sorti, Karine, en finale de l'Euro 2016.
Oui, mais là, il était à son prime.
Oui, mais même à son prime. Tu te rappelles l'importance qu'il avait à côté du sélectionneur?
Bah oui, c'était lui qui coachait.
C'est lui qui coachait. Donc en fait, moi, je pense que en tant que remplaçant, c'est aussi accepter que tu as un âge où tu ne peux plus jouer 90 minutes, c'est pas possible au très haut niveau, c'est peut-être possible en Arabie Saoudite, mais c'est pas possible pour une Coupe du Monde, il y a trop d'intensité, on va te demander trop de choses, et surtout, rends-toi compte de l'influence négative que tu as sur tes coéquipiers, même sans le vouloir, c'est clair.
Et donc d'un côté, il y a une influence négative plutôt du côté de Cristiano Ronaldo, alors que Neymar, visiblement, il était appelé même, les coéquipiers, souvenez-vous
tu
comment ils étaient comme des dingues lorsqu'il a été pris dans la sélection, tout le monde le voulait.
Totalement, mais tu sais quelle est la différence? C'est que Neymar ne joue pas. Si Neymar jouait et qu'il n'était pas bon et qu'il ralentissait, qu'il avait cette impression de ralentissement, peut-être qu'il tiendrait le même discours, au moins off. Mais là, comme il joue pas, qu'il les encourage, qu'il est positif pour le groupe, bah forcément ils en disent tous du bien. Mais,
oui, non, mais Fabrice, il y a eu une campagne de la part des coéquipiers avant pour qu'Ancelotti le prenne. Les mecs sont pas complètement tordus en se disant attends, on va absolument qu'il soit dans le groupe et on espère qu'il va se péter, comme ça il jouera pas.
Non, mais encore une fois, moi je demande à voir Neymar qui joue et qui ralentit, qui rate des occasions, qui ralentit le jeu, qui est pas bon, et j'attends de voir les réactions derrière et surtout si les joueurs vont continuer à dire il faut absolument qu'il joue.
Après, il y a une différence quand même. Par rapport à mon avis là sur les stars, c'est que les deux là qu'on cite, c'est les deux qui ont des problèmes. C'est-à-dire que l'une qui est cramée entre guillemets, Cristiano Ronaldo, parce qu'elle a tout simplement 41 ans et demi ou bientôt 42 ans, et c'est normal. Et l'autre parce que pour des raisons différentes, peu importe l'âge, elle est blessée et on sait que sa sélection fait débat et que Ancelotti l'a pris aussi pour des raisons, on va dire, politiques au sens large. Donc évidemment que ça rentre pas tout à fait dans le cadre de mon avis, parce que là c'est pas une évidence de se dire ces gars-là vont te faire gagner le match, alors que les Argentins pensent que Messi peut leur faire gagner le match, les Français, les joueurs français pensent que Mbappé peut leur faire gagner le match, et les Anglais pensent que Kane peut leur faire gagner le match. C'est ça la différence.
Ronaldo aussi, d'ailleurs, pense qu'il peut faire gagner, ça suffit. Hein.
Ah, mais non, mais Ronaldo
lui,
le pense,
lui, mais
pas
les autres ne le pensent pas.
Pas les autres.
Et ce que, tu vois ce que tu disais dans ton avis, ce que je trouve très juste, et je l'ai reposté d'ailleurs sur mon Instagram, c'est, et en fait, ce qui est très beau, c'est que j'avais vu l'image en direct, ici même sur le plateau, de Messi Tu vois la scénographie des Argentins avec leur, pour le coup, elle est pas mal la tenue d'échauffement
t'as
pour
la photo,
ça.
Quand
ah, tu l'aimes.
Pas, non, parce qu'elle fait un peu gladiateur. Tu ouais. vois ce que je veux dire. Et donc tu les vois dans le couloir, là, ce couloir qui était un peu sombre hier à Kansas. Tu les vois dans le couloir, tu vois qu'ils font exprès.
Ouais.
Et puis en plus,
et l'entourent.
Alors on les aime pas, mais ils sont quand même beaux gosses autour de lui. Lui pas trop, mais les autres. T'avais deux pôles à droite, t'avais à gauche, ah mince, l'ancien du PSG, l'ancien du PSG.
Icardi. Paredes.
Non, Paredes, excuse-moi. Paredes. Juste à côté, de beaux gosses, les yeux bleus, les mecs qui sont dans le couloir en mode lieutenant. Vas-y, vas-y, frangin.
Ah, c'est le parrain.
T'es le boss, vas-y devant. Non, mais hey, l'image, je l'ai vue, j'ai dit waouh.
Et après, moi, donc, je suis plus impressionné par l'équipe de France. En Kylian, il arrive devant Kylian Mbappé et que derrière, il y a les.
Non, je l'ai pas vu.
Il y a toute l'armada avec les Olivier, avec Dembélé.
J'ai pas vu l'image. Mais moi, j'ai vu l'image des Argentins dans le couloir hier, ici. Et je l'ai vu le truc et ensuite bah c'est ESPN qui ou d'autres médias qui l'ont ressorti.
Mais la photo est belle, c'est vrai.
La photo est dingue.
Bien sûr.
Non mais même Scaloni qui pleure sur le banc au moment du changement.
Je crois qu'il y a eu un souci parce que Messi aussi a pleuré.
Alors Scaloni, il a dit qu'a priori
il a eu un souci personnel.
Non mais aussi Scaloni à l'issue du triplé lorsqu'il décide de le sortir, il pleure aussi parce qu'il se dit que enfin c'est ce que j'ai lu moi okay. que effectivement c'est sa dernière Coupe du monde, qu'il a encore fait un récital et qu'il faut
beaucoup.
En profiter. Oui mais c'est quand même dingue. Mais vous imaginez le sélectionneur qui pleure pour un joueur qui pleure d'émotion.
C'est totalement football.
Juste un truc, alors c'est totalement football mais c'est très intéressant parce que ça fonctionne très bien en Argentine hein, cette surexcitation, cette surémotion.
Oui, en
c'est
France ça passe pas avec des chances.
Oui oui, très bien, mais c'est exactement les raisons pour lesquelles on a dit que ça avait fait exploser Marseille. Le trop d'émotions, les Medina oui, et Balerdi.
Les Argentins, ils savent faire.
Oui, mais je te dis que nous, on a analysé ces images, souvent, quand ils avaient gagné le match contre Rennes, entre Medina et Balerdi, les Sud-Américains qui étaient complètement comme des fous, tu sais, à s'arracher, à se tenir comme des malades. Et nous, on a expliqué dans l'année, et tu as raison, c'est sans doute parce que c'est pas notre culture et que c'était sans doute trop surjoué que ça n'allait pas. On a dit qu'on avait mis trop d'émotions dans la marmite marseillaise, et du côté des managers notamment, et que ça expliquait leurs erreurs. Alors qu'effectivement, en Argentine, ils en mettent beaucoup. Scaloni, il est toujours.
Il est fan de son joueur.
Non, mais pas que de son joueur, pas de sa sélection. Ouais. Au moment de l'hymne et tout, les mecs, ils sont complètement. Ils,
D'ailleurs ça, et c'est pour ça que
ils sont habités.
Ce genre de truc habité, ça va aussi avec la Coupe du Monde. J'ai aussi fait un parallèle avec le rugby, parce qu'au rugby, pendant les hymnes, toutes les sélections, la France y compris, sont aussi très habitées comme ça, par les valeurs, hein, les fameuses valeurs de l'Ovalie.
Fabien Galthié, il pleure pas pendant l'hymne français.
Non, mais tu vois que les joueurs français, souvent, quand ils se tiennent, par le col, des fois t'en as qui ont les larmes aux yeux parce que c'est un sport de combat, ils savent qu'ils vont aller au combat ensemble, etc. C'est la confrérie et je pense que dans ce genre de pays et pour finir, oui je suis d'accord que là, l'équipe de France ça le fait aussi, c'est juste que hier j'ai pas vu l'image, mais en tout cas les Argentins tu sais qu'ils ont ça en eux, tu vois. Et d'ailleurs un des chants, et je répète que je n'aime pas tous leurs chants, voire il y en a que je déteste, mais le chant qui tournait encore hier et qu'ils avaient déjà en Coupe du Monde 2022, en tout cas un des chants qui dit que je crois qu'ils disent en gros être argentin c'est un sentiment, tu vois, et avec leur façon de le faire, ta 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 ce sentimiento, tu vois ce que je veux dire, c'est
je peux pas être dans la vibe parce que je connais pas exactement les paroles. Non,
mais
t'entends certaines des chansons,
bien sûr que comme je l'ai dit, il y a des chansons qui sont inaudibles et qui sont horribles et qu'il faut prohiber, mais il y a ça dans leur culture, tu vois. Et les Brésiliens ont ça aussi dans leur culture, le fait, tu
c'est
vois, Marquinhos qui pleure au PSG, qui a pleuré avec la sélection, Thiago Silva qui pleure. Mais je pense qu'on peut pas comprendre, on commence à le comprendre quand même en France, hein, mais on peut pas comprendre autant qu'eux comment ils vivent le foot.
Mais ça a été parfois leur limite. Juste Fabrice, excuse-moi, est-ce que tu pourrais nous rappeler exactement la scène que tu décris, parce que j'ai pas bien suivi en fait. Donc c'est hier avant le match.
Non, ça c'est simplement avant le match, ils ont pour habitude, et ça fait depuis un petit moment maintenant, avant d'aller à l'échauffement, Kylian Mbappé, il est toujours devant en fait. C'est un peu le meneur et les autres vont derrière. On a d'ailleurs des images, c'était il me semble lors du dernier match amical ou celui juste d'avant, le match de prépa, où Kylian Mbappé demandait à tout le monde de venir vraiment. Il les rassemblait avant lui d'aller en avant en chef de meute en fait. Et c'est vrai, quand tu regardes les images, bah, ça a de la gueule. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des très grands joueurs en équipe de France, donc c'est aussi des belles images, quoi.
Très bien, écoute, magnifique, au moins on a compris de quelle scène, on va dire, tu parlais. On rappelle en tout cas que hier soir, on sait que les Argentins, ils jouent pour Léo Messi en 2022. Ils voulaient lui offrir la première Coupe du Monde et potentiellement, bah, là, faire un back-to-back. Messieurs, on y croit au back-to-back, là, après ce qu'on a vu hier, ou on va se calmer, quoi. Faut quand même qu'on redescende.
Moi, en tout cas,
c'est pas impossible.
Je crois fortement à une finale France-Argentine, la revanche. Ah, celle-là, je la vois bien. Moi, je ne sais pas s'ils seront sur la même partie du tableau.
C'est drôle, parce que j'en parlais hier et c'est vrai que moi aussi, je pense que.
Je pense que ce serait extraordinaire.
Le storytelling incroyable. Non, mais une des deux équipes peut gagner.
Non, mais s'ils ne sont pas dans la même partie de tableau, ce serait magnifique.
Je rappelle que
c'est possible.
Je rappelle qu'il y a un 16e de finale possible aussi avec deux groupes, c'est Argentine et Espagne.
Oui, ça peut être compliqué pour les Argentins.
Ce qui peut aussi mettre en péril ce genre de pronos. Mais bon, écoute, on verra.